diaphragme, le préservatif et les éponges contraceptives. Le diaphragme ayant quelques variantes du type cap cervical ou autre. Hein. Je dirais que c'est surtout dans la qualité de ces moyens qu'on a évolué. Par exemple, pour les pilules, on a quand même réussi à baisser passablement les dosages de manière à ce que les effets secondaires soient beaucoup moins ressentis par les femmes, ce qui n'exclut pas du tout qu'elles réagissent parfois violemment. Mais encore tout dernièrement, ce printemps, une pilule très légère est sortie avec une des deux hormones qui la composent à dosage beaucoup plus bas. Et on est en train d'essayer cette nouvelle pilule.
Mais par exemple, un autre témoignage que j'ai eu seulement par téléphone, Aude me disait qu'elle, quand elle avait pris une pilule très faible, ça lui avait provoqué un caillot dans les trompes, elle avait dû se faire opérer, enfin quelque chose de dramatique, elle avait dû prendre une pilule beaucoup plus forte. Une autre femme dira, vous verrez, Elisabeth, que elle, la pilule trop faible provoquait des saignements sans arrêt, par exemple. Donc il y a encore des problèmes.
Il y a encore des problèmes, tout à fait. Les réactions personnelles, il faut toujours en tenir compte. On ne peut pas dire à une femme, ça ne fait rien si vous saignez, de toute façon, vous êtes couverte du côté contraceptif. Ça, on ne peut pas faire. Mais en général, les femmes sont contentes de pouvoir se mettre le moins de produits chimiques possible dans le corps. Hein.
Oui, c'est aussi ce qu'on remarque au planning familial, mais il me semble aussi beaucoup qu'il y a un manque d'informations fines, pas d'informations médicales, mais que par exemple justement ces petites taches de sang, elles peuvent survenir le premier mois lorsqu'on prend on change de pilule, et puis que effectivement si c'est qu'un mois, c'est peut-être pas si grave. Je crois que les femmes sont très vite alertées en pensant que tout est extrêmement dangereux actuellement. Vous n'avez pas ce sentiment ?
Oui, c'est vrai. Et puis certaines sont étonnés de ne pas avoir de saignement. Une femme qui prenait la pilule régulièrement, ne l'oubliant pas, ne supportait pas de ne pas avoir de saignement à la fin du mois. Il a fallu trouver une pilule plus forte qui la fasse un peu saigner.
Oui, ça c'est d'ailleurs la réaction de Nancy qui considérait comme pas un problème le fait qu'elle ait plus ses règles m'a frappée. Hein, parce que je pensais que c'était un petit peu au contraire ce qui d'habitude alerte les femmes. Hein, c'est quand elles n'ont pas leur cycle, le cycle régulier. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, elle parlait de cette piqûre, je ne sais pas si vous aviez déjà vous entendu parler de cette piqûre, il existe aussi, paraît-il, un implant que l'on peut mettre sous la peau, est-ce que vous connaissez ces nouveaux moyens?
Alors c'est dans la façon de diffuser, au fond, les produits hormonaux, qui aura peut-être des progrès qui sont faits dans certains pays, on connaît déjà ces implants qui sont placés sous la peau.
On connaît des implants qui sont proposés aux femmes ménopausées ou avant la ménopause pour prolonger les cycles artificiellement. Ça permet également d'avoir moins d'hormones dans le corps puisque par la peau, l'absorption est plus directe et ne passant pas par le foie, elle est plus efficace. Hein.
Madame Imfeld du service de votre planning m'a dit que par exemple il existait en France une pilule mensuelle abortive, enfin entre guillemets abortive, mais qui n'était pas du tout utilisée en Suisse. Pouvez-vous nous en parler ?
C'est dans la contraception de l'avenir qu'on fait des recherches actuellement pour trouver une pilule mensuelle effectivement. Mais je voulais encore revenir sur un point, c'est qu'il y a quand même un décalage incroyable entre les termes qu'utilisent les femmes par rapport aux médicaments, aux en guillemets cochonneries et autres. Et puis, par exemple, les très officiels rapports qui ont été faits sur des recherches concernant la pilule et dont les résultats sont loin d'être toujours négatifs. Par exemple, sur pilule et cancer ou sur... J'aurais voulu avoir l'opinion du médecin présent ici pour savoir si... bien sûr, restent les problèmes circulatoires, mais les études qui ont été faites sont loin d'être si négatives sur les effets de la pilule.
Il y a quand même des effets assez directs sur le foie. Hein. Voilà, ça peut être difficile à supporter pour le foie. Et c'est pourquoi certaines femmes ont des nausées quand elles prennent la pilule. Il y a un effet circulatoire, un effet sur les varices. Entre autres, ça peut déclencher ou accélérer l'apparition de varices. Bon, c'est très difficile de savoir qu'elle...
Mais surtout à partir de 30 ans quand même, plus tard.
Surtout plus tard, oui. Et puis, il y a le problème des hypertensions aussi. Voilà. Ça peut aggraver une hypertension quand même. Ce n'est pas une chose tout à fait innocente. Et quand nous prescrivons une pilule, nous la prescrivons pour 3 mois d'abord, si c'est la première fois, de façon à faire un petit bilan au bout des 3 mois pour voir si tout va toujours bien ou si quelque chose est inquiétant, s'il y a un petit signe, disons qu'il faudrait faire plus attention. Il y a quand même, moi, la notion que j'ai, je ne peux pas citer de source, hein, je retiens très mal toutes ces choses. La notion que j'ai, c'est que il y a quand même une corrélation entre la pilule et certains cancers gynécologiques à partir d'un certain nombre d'années de prise de pilule. Hein. Je crois qu'à partir de 5 ans, quand même, il y a une augmentation du risque de cancer gynécologique chez la femme qui l'a prise.
Mais c'est ce que je voulais vous demander, parce que vous verrez, une des femmes qui témoigne prend la pilule depuis quasiment 20 ans. Bon, je sais qu'il y a des femmes qui portent le stérilet aussi pendant de nombreuses années. Est-ce que tous ces moyens peuvent être pris à long terme sans problème ?
Il me semble que là, il faudrait quand même, disons, nous ne sommes pas outillés aujourd'hui pour avoir ces travaux devant nos yeux. Je dois dire que tous ceux qui me sont parvenus au centre, je ne peux pas non plus les citer ainsi, mais je viens d'en lire encore hier, qui sont tout à fait positifs sur le fait que dans l'échantillon des femmes qui ont pris la pilule, il y aurait moins de cancers, beaucoup moins de cancers de l'utérus. Et je crois que là, il faudrait évidemment, c'est une discussion de spécialistes qu'on ne va pas en mancher aujourd'hui.
Oui, tout à fait,
hein, c'est pas de notre ressort, en fait. Mais c'est dire qu'il n'y a dans ce domaine rien d'absolument clair et dont le danger paraît tellement éminent, parce que bien sûr que si c'était vraiment dangereux, on en parlerait quand même davantage. Je crois qu'on exagère aussi beaucoup ces risques.
Oui, je crois qu'il faut tenir compte du fait que nous parlons de statistiques là.
Voilà.
Nous ne parlons pas d'expérience de praticiens. C'est vrai que dans la pratique journalière, en tout cas au centre de santé, nous voyons très peu de femmes souffrant d'un cancer gynécologique.
Est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, une femme devrait toujours pouvoir trouver un moyen de contraception qui lui convient ? La situation de Sylvana qui disait qu'elle a dû tout arrêter parce que rien n'allait, est-ce qu'elle est très fréquente ou est-ce que simplement elle n'a peut-être pas cherché assez loin ou on ne l'a pas conseillé comme il faut ?
Moi, il me semble que c'est un des buts de notre travail, c'est justement d'aider toute femme à trouver ce qui va finalement lui convenir. Mais peut-être l'erreur a été faite en pensant que la contraception était une technique qui, en soi, allait proposer une panacée universelle. Et peut-être on n'a pas assez insisté sur le fait que la contraception demande un cadre pour être discuté, demande des personnes qui non seulement sont informées, mais entreront un peu dans la compréhension de chaque cas particulier. Et je crois que c'est là que l'erreur a été faite, c'est que ça n'est encore une fois pas une technique, mais un comportement assez compliqué qui va demander des renoncements. Il n'y a rien qui est absolument parfait. Et je crois qu'on n'offre pas assez aux femmes le temps ni le lieu d'avoir une discussion qui n'est pas que médicale.
Moi, c'est tout à fait mon avis aussi. Je trouve que c'est en effet un comportement et pas seulement une technique et un comportement de couple, je dirais.
Voilà, ouais.
Un comportement de personne responsable et pas seulement de quelqu'un qui veut prendre son plaisir en éliminant tous les risques. Je crois que dans la vie, c'est quasiment impossible, pas seulement dans le domaine de la contraception. Il y a toujours une médaille et son revers.
Nous allons écouter maintenant le témoignage de Marianne, qui a 43 ans, qui travaille dans une entreprise américaine.
À l'époque où je commençais à chercher officiellement, en tout cas, la contraception, c'était la pilule qui venait de sortir. Et puis, comme j'étais assez jeune encore, 18-19 ans, c'était la pilule qu'on recommandait surtout parce que c'était le plus sûr, pas d'oubli, etc. Normalement, on n'a qu'à prendre le café, le comprimé, c'est fini, etc. Alors, tout le monde a recommandé ça dans la clinique qui était justement une clinique de planning à San Francisco. Et puis, j'ai vécu avec ça pendant, je pense, 5 ans, oui. jusqu'au moment où j'ai décidé que je voulais avoir un enfant. Et puis là, j'ai arrêté la pilule. Et puis je n'ai pas repris la pilule. Parce que après, on a sorti un tas de recherches disant que ce n'était pas si bien que ça. Il y avait quand même des hasards. Et puis des difficultés à prévoir, surtout pour les personnes qui avaient dans leur famille des histoires de maladies vasculaires, etc. Ce qui était le cas. Alors, j'ai arrêté complètement. Puis pendant un certain temps, c'était un peu un mélange, quoi. C'était le diaphragme, c'était le préservatif, etc. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que dans les cliniques, on essayait de parler de tout cela comme si c'était quelque chose de très anodin. On ne veut pas tomber enceinte, comme on ne veut pas attraper la varicelle ou quelque chose comme ça. Puis pour moi personnellement, c'était toujours un grand émoi, la contraception. Pour moi, c'était toujours la présence ou l'absence de l'enfant. C'était pas moins que ça. Alors, cette espèce de banalisation me séparait de tout l'établissement médical parce qu'il ne semblait pas comprendre que c'était quelque chose de beaucoup plus proche et intime.
Mais dans tes relations avec ton compagnon ou tes compagnons, je ne sais pas si tu vivais une relation fixe à ce moment-là, mais est-ce qu'il y avait un échange ou est-ce que c'était ta propre réflexion, ta propre prise en charge?
Absolument pas, il n'y avait aucun échange. C'était moi-même qui prenais la responsabilité parce que moi-même, je ne désirais pas d'enfant. Et puis, c'était jamais de discussion. C'était, je pense, à une époque où on était plus enfoncé dans des rôles, etc. En tout cas, j'avais aucune confiance que l'autre allait s'occuper de tout ça. Alors, j'en ai pris la charge, quoi. Et puis, pour finir, c'était le stérilet que j'ai choisi parce qu'il n'y avait pas les effets de la pilule, il n'y avait pas des inconvénients du préservatif, etc. Ça semblait idéal si on arrivait à le supporter. Parce qu'il y a des femmes qui le rejettent. Et puis, j'ai une sœur. Et puis elle a eu elle-même une infection et puis elle peut plus avoir d'enfant. Elle a un enfant. Puis tout est cicatrisé, etc. Donc. Et puis pour finir, dernièrement, après avoir eu le deuxième enfant que j'ai maintenant, je suis tombée enceinte avec le stérilet en place. Alors à ce moment-là, je me posais la question... qu'est-ce que je fais? Bon, si j'arrête cette grossesse, il y a quel sens? Quel est le sens de remettre encore un stérilet avec la possibilité de retomber enceinte, etc. Alors, tout est remis en question, quoi. Alors, je me dis, j'ai un certain âge, est-ce que je vais physiquement avoir envie de poney, etc., dans l'avenir proche, parce qu'il faut que ça soit assez proche. J'avais déjà 42. Et puis, je me disais que toute la situation de ma vie, mon énergie, etc., le fait que je travaille déjà pour subventionner les besoins du premier, le premier enfant, c'était très réaliste d'imaginer que j'allais plus avoir un enfant de moi. Alors, à ce moment-là, la chose normale était d'interrompre la grossesse et puis de me faire stériliser. Alors, j'ai pris cette décision. Bien sûr, j'ai discuté avec mon mari. Il fallait que lui, il accepte aussi de ne plus avoir d'enfant. Lui aussi, à cet âge, ils sont... un certain manque d'énergie pour tout recommencer et surtout, comme toutes les personnes d'un certain âge, moyen âge, il y a des choses qu'on aimerait réaliser, on est conscient que le temps s'en va. Alors si on donne le temps encore à élever encore des enfants, etc., on a moins de temps pour d'autres choses, etc., qui sont importants aussi.
Est-ce que vous êtes posé la question que ce soit ton mari qui se stérilise et non pas toi? Parce qu'apparemment, la question est beaucoup plus simple au niveau de l'opération telle qu'elle.
Oui, tout à fait. Et puis, j'ai refusé cette solution parce que j'ai deux enfants. Et puis, c'est mon deuxième mariage et lui, il n'a qu'un enfant. Alors, je me dis, si par hasard, on s'écrase sur la route, mon mari, il est dans une situation difficile, et puis il a rien, etc. Alors j'ai décidé que ce n'était plus logique. Moi, personnellement, physiquement, j'étais 100% sûre. Tandis que lui, c'était quand même plus important pour lui s'il prenait sa décision. Mais on en avait discuté, ça c'est vrai, parce que c'est vrai que c'est plus simple. J'ai dû quand même vivre pendant et après un certain nombre de regrets, j'étais un petit peu à la fois soulagée mais en même temps déprimée, parce que soulagée parce qu'il n'y a plus cette question, je ne suis plus mise en question devant cette question perpétuelle, enfant ou absence d'enfant, etc. Mais aussi déprimée parce que c'était fini.
Est-ce que dans tes décisions et tes choix, tu as été influencée par ce qui s'est discuté à un moment donné aux États-Unis dans le mouvement féministe?
Non, je dois dire que c'était plutôt mon expérience personnelle, parce que j'ai vécu une situation dans une culture où la femme avait souvent beaucoup d'enfants.
Ma grand-mère. Donc tu viens de Hawaï, c'est ça?
Oui. Ouais. Quand j'étais en face de ma grand-mère avec tous ces enfants qu'elle a eus sans les vouloir tous, ça c'est sûr. Et puis une situation dans laquelle les femmes catholiques, élevées catholiques, avaient un enfant après l'autre. C'est-à-dire, c'était même pas, il n'y avait même pas une pause, etc. Je voyais des cas, trop de cas d'enfants qui n'étaient pas voulus, pas désirés. Alors moi, personnellement, moralement, je ne voulais pas être une personne qui mettait au monde des enfants pas voulus. Alors c'était exclu. Mais en même temps, personnel, parce que je valorisais les enfants tellement, c'est-à-dire leur vécu, leurs droits. Je ne pensais pas du tout à retrouver une liberté comme cela, pas du tout. Et puis, en même temps, il y a l'histoire d'être réaliste, de vouloir donner suffisamment d'énergie aux enfants que j'ai déjà, sans en mettre au monde un autre, sans être 100% sûr que je pourrais donner la même chose à un autre.
Alors voilà le témoignage de Marianne qui nous raconte une longue histoire qui va de l'essai de tous les moyens de contraception jusqu'à finalement se stériliser. Ce qui m'a frappée dans son témoignage, c'est, disons, l'objet du choix de sa contraception. C'est l'enfant et c'est pas elle en tant que femme. Qui par contre, choix qui évolue au moment où elle va choisir de stériliser, ou c'est plus elle qui rentre en ligne de compte, et cette fois-ci moins peut-être l'enfant, mais je trouve qu'il reste encore fort. Est-ce que vous sentez ces femmes déchirées souvent entre ces deux alternatives? C'est l'enfant qui doit compter ou c'est elle?
Oui, il me semble que c'est là vraiment une interview exemplaire, parce que cette femme nous montre justement ce que devrait être... le temps nécessaire pour choisir un moyen de contraception, c'est-à-dire passer par toutes ces hésitations et ambivalences qui sont à la fois personnelles, elle et sa manière de se réaliser, elle et l'enfant, elle et le conjoint, tout est présent dans cet entretien. Et finalement, c'est après avoir fait toute cette réflexion qu'elle peut prendre une décision qu'on sent, il me semble, tranquille et quelque part harmonieuse. Je ne sais pas si c'est votre sentiment.
Tout à fait. J'ai aussi l'impression que C'est comme ça que devrait pouvoir se faire une contraception avec suffisamment de temps pour bien réfléchir, peser, même si ça doit être définitif. Hein. Une stérilisation, c'est quelque chose sur laquelle on ne peut pas revenir.
Peut-être qu'on reparlera de la stérilisation plus en détail sur l'histoire, on ne peut pas en revenir, parce que le témoignage suivant aborde aussi le problème de la stérilisation, mais d'un autre point de vue. Peut-être pour reprendre d'abord un peu de ce que disait Marianne aussi, il y a cet aspect où elle a eu un accident dans un moyen de contraception. Elle s'est trouvée enceinte alors qu'elle avait le stérilet. Comment les femmes réagissent lorsqu'elles utilisent un moyen de contraception et que ça ne marche pas et que se trouvent enceintes? Est-ce qu'elles deviennent complètement insécures et n'osent plus rien utiliser?
Oui, elles ont en tout cas l'impression d'être piégées, justement. Piégées parce que peut-être ça n'avait pas assez été dit ou... que les moyens ne sont parfois pas tout à fait absolus. Et parfois aussi, alors, elles se sentent plus autorisées. Ça les déculpabilise pour prendre une décision. Elles se disent, ben, c'est pas de ma faute. Parce que ce qui est tellement lourd actuellement, c'est peut-être de devoir toujours choisir soi-même pour des raisons qui ne touchent qu'à soi. Alors que là, parfois, on peut dire, ben, mon stérilet n'a pas marché, c'était pas de ma faute.
Tout à fait. Moi, j'ai l'impression que certaines femmes acceptent facilement une grossesse non prévue et que elles prennent la chose sérieusement, elles assument et elles prennent l'enfant. Au sens où le disait Marianne, il faut vraiment l'accueillir. Et d'autres prennent la décision d'une interruption de grossesse relativement facilement parce qu'elles ont fait tout ce qu'elles ont pu. Et profite de cet échec, entre guillemets, de contraception, pour revoir leur contraception, la rediscuter, peut-être pratiquer une nouvelle contraception.
Eh bien, bon, jusqu'à l'âge de 19 ans, moi, j'étais dans une institution religieuse, si bien que l'information, tant au niveau sexuel que contraception, etc., c'était très, très réduit, très rudimentaire. On avait quand même bien une dame qui venait une fois, à peu près une ou deux fois par année pour nous en parler un petit peu, mais personne ne demandait rien, ni de poser de questions, on était beaucoup trop nombreuses pour avoir le courage de se lancer. Et puis, bon, moi, je me suis retrouvée à 19 ans à la suite d'un problème... médical avec la pilule.
Le petit ennui gynécologique dont vous parlez, c'était quoi? Jusqu'on comprenne à quoi peut servir la pilule comme moyen de médical.
Eh bien, bon, moi j'ai eu un kyste à un ovaire et on a dû m'enlever un ovaire et une trompe. Et puis le médecin m'a donné la pilule pour préserver les ovules que j'avais dans l'autre ovaire de façon à pouvoir avoir un enfant un jour si je le désirais. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas.
Et puis depuis ce jour-là, vous avez donc décidé, après plus comme médicament, mais réellement comme moyen de contraception, de choisir la pilule à ce moment-là?
Non, moi j'en suis restée là. Je n'ai... Le problème ne s'est pas posé vu que je l'ai très bien supporté. J'ai pas pris de poids, j'ai pas eu de mal au cœur, j'ai pas aucun effet secondaire désagréable.
Oui, comme vous disiez, à part quelques corrections de parcours.
Ah ben oui, ça, il y a eu quelques... Parce que j'en ai une que j'ai prise qui était visiblement trop faible pour moi. Et si je ne la prenais pas régulièrement à la même heure, j'avais des pertes sans arrêt. C'était très désagréable. Bon, ben, j'ai demandé au médecin de m'en donner une autre, et puis voilà.
Et puis, bon, ce moyen de contraception qui a l'air de vous avoir convenu si bien, par ailleurs, il vous a amené quel sentiment? Vous étiez vraiment libérée en
fait? Ah, tout à fait. Alors, ben, ça y est. C'est du reste parce que je prenais la pilule que je me suis dit, ah ben, maintenant... Si j'ai un petit copain ben, et que ça devient un petit peu sérieux, on passera le pas. Je me demande si je n'avais pas pris la pilule, j'aurais eu pas énormément d'angoisse, justement par le fait que je n'avais pas beaucoup, beaucoup d'informations.
Mmh. Donc, pourtant, oui, ah oui, puisque comme vous preniez la pilule comme médicament à l'origine et non pas comme moyen de contraception, donc en fait, c'est,
ça c'était vous le problème à l'envers. Voilà. C'était le problème. J'ai fait les choses dans l'autre sens.
C'est vrai, ça. C'est...
Tout à fait. Tout à fait dans l'autre sens. Ça a évité de demander à maman d'aller chez le médecin pour prendre la pilule, etc. Ça a évité énormément de discussions que peut-être j'aurais... Est-ce que j'aurais hésité à les avoir, je pense.
Parce qu'en fait, votre mère, elle, ne vous en parlait pas.
Non.
Entre copines?
Ben, entre copines, on avait quand même... Les copines que j'avais aussi avaient aussi été élevées chez les bonnes sœurs, donc on avait toutes un peu la même façon de voir, une certaine timidité à discuter de problèmes sexuels. Donc, non, je ne me suis pas adressée à mes copines. Par contre, alors maintenant, oui, sachant cette interview, n'est-ce pas, j'ai demandé à mes copines autour de moi, on a discuté un petit peu, et puis c'était... Bon, il y a eu des réactions diverses, il y a eu celles qui ont ri, qui m'ont dit « bon, ben, bon courage ». Et puis il y a eu celles qui ont dit ah ben c'est plus un problème d'homme en fait, c'est l'homme devrait aussi lui plutôt que d'obliger sa femme à avaler un médicament ou de mettre un stérilet qui est quand même un corps étranger dans le corps, se stériliser le jour où le problème se pose une fois qu'il y a eu des enfants. Bon, chez moi ça s'est pas présenté comme ça.
Mais c'est fantastique, voilà la voisine qui arrive et on va pouvoir lui poser la question à RL directement. Alors vous, semble-t-il que vous considérez que les hommes devraient prendre part beaucoup plus, être beaucoup plus responsables dans la contraception?
Tout à fait, oui. Moi j'estime que dans un couple, si on veut vivre ensemble une vie commune en tout cas, le mari doit aussi prendre ses responsabilités. Et bon, personnellement, nous avons utilisé plusieurs moyens tels que la pilule et le stérilet, mais c'est toujours moi qui faisais le... disons, qui était victime plutôt que... Alors j'estime que mon mari peut aussi prendre ses responsabilités. Du reste, il est tout à fait d'accord et il va aller se faire une vasectomie. Et on estime aussi qu'on sera plus libéré après. Et puis comme nous ne voulons que deux enfants et pas avoir un problème plus tard, d'en avoir plusieurs et tard et tout, on a choisi cette solution que nous trouvons... D'autres amis l'ont fait et s'en sont trouvés bien, disons, ça ne change rien pour l'homme, si ce n'est que psychologiquement, et si on est bien préparé, l'homme est bien préparé à cela, et bien il n'y a aucun problème.
Mais tout à l'heure vous disiez, j'étais la victime, vous avez hésité
oui,
sur le mot d'ailleurs.
Oui, parce qu'en prenant la pilule, disons qu'il y a certains malaises que l'on a, disons qu'on a des maux de tête, on a plusieurs problèmes, et on le subit toute notre vie si on ne veut pas avoir un troisième enfant, par exemple, ce qui est mon cas. J'ai utilisé le stérilet, il a fallu me l'enlever parce que j'avais une infection, etc. Donc j'estime que maintenant, à part plusieurs petites méthodes qui sont gênantes pour nous dans un couple, il n'y a plus que cette solution. Et bon, moi, je ne peux pas me faire stériliser d'office. À moins de le faire lors d'un accouchement, ça crée beaucoup de problèmes, tandis que bon... Et on arrive à un âge aussi, il faut le dire, où on peut prendre cette décision, parce que mon mari a 35 ans, bientôt 36. Moi, personnellement, j'en ai 33, et c'est un âge décisif pour nous. Surtout que nous ne voulons plus d'enfants. Et je sais qu'un troisième crée des problèmes énormes chez nous. La vie n'est pas faite maintenant pour avoir trois enfants. C'est déjà assez difficile d'en élever deux. Moi, j'ai un 4 pièces. Pour avoir un 5, c'est très difficile, etc. Financièrement, bon, c'est assez, quoi. On peut les élever, mais 3, ce serait trop. Et puis, on estime maintenant que 3 enfants, ça prend vraiment trop à la maman.
Donc, en fait, c'est un choix qui vous concerne, vous comme adulte.
Qui nous concerne en tant que couple. Ouais, voilà. Puisque nous vivons notre 8e année de mariage, on est très heureux. On espère tout au moins vivre jusqu'au bout ensemble. On a adopté cette attitude, mais on a réfléchi, bien sûr, aux conséquences, ça c'est clair.
Si, mais moi, oui, en parler avec mon mari, il n'y a pas de problème. Par contre, parler de stérilisation, ça non, alors. On en a parlé, mais c'est exclu. On n'envisagera pas la... Parce qu'il y a le côté irréversible de l'acte qui dérange, aussi bien pour lui que pour moi, d'ailleurs. Pour moi, je n'aimerais pas vraiment, je me sentirais... Dans ma tête, ça ne se passerait pas bien.
Alors que pourtant, vous avez décidé d'avoir plus d'enfants, quelque part, enfin pour l'instant.
Hein. Oui, quelque part, mais quelque part oui, quelque part non, en fait, c'est pas encore... Je me dis, bon, le dernier a quand même 4, va avoir 4 ans, j'aurais déjà dû l'avoir, le troisième, si j'aurais pas vraiment envie maintenant de tout recommencer. Mais quelque part, quand même, j'aimerais pas ne pas donner de chance au troisième, vous voyez ce que je veux dire.
Nous sommes sur Radio Zone, Ménage-toi, 93.8, et vous pouvez nous appeler au 50 40 51 41 023 depuis la Suisse.